Bonjour, bonjour et bienvenue dans Shine to Shine, le podcast. Aujourd'hui, émission exceptionnelle, j'accueille Carole Morage, une invitée d'honneur. Donc Carole, bonjour, tu es fondatrice et présidente de l'agence d'innovation My Need My Solution et créatrice du programme Les Wonder Girls.
Bonjour Marielle, oui tout à fait.
Je suis ravie de t'accueillir, enfin on est chez toi exactement, mais je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Shine to Shine, c'est génial. Donc rapidement, tu me dis si je me trompe, alors j'ai noté, en 2014 tu crées les Digital Girls,
oui,
un mouvement de femmes et d'hommes visant à pousser la mixité dans les secteurs de l'innovation, digital et data, avec le postulat que les femmes ont un rôle majeur à jouer dans le secteur du digital et dans la transformation des organisations et des territoires.
Ouais, tout à fait.
Ouais.
Oui, c'est tout à fait ça.
Et actuellement, c'est avec ta nouvelle création, le réseau d'accompagnement, les Wonder Girls, que tu brilles et que tu partages tes connaissances et ton savoir. Multi-entrepreneuse avec un parcours incroyable, tu as créé plein d'entreprises, toujours innovantes et impactantes dans la métropole toulousaine. Ton réseau est énorme et les femmes qui ont la chance de t'approcher et te connaître savent aussi que tu es, en plus d'être une entrepreneuse, tu es une femme avec un énorme cœur et beaucoup de courage. On pourrait t'appeler Carole Courage. Tu partages sans compter et je suis très honorée aujourd'hui de t'accueillir dans le podcast pour briller, pour qu'on brille tous ensemble aujourd'hui. Bienvenue Carole et merci d'être là parmi nous.
Merci beaucoup Marielle pour ton accueil.
Donc j'ai une question que j'aurais l'habitude de poser à tous les invités. Alors, shine, ça veut dire briller. Et pour toi, qu'est-ce que veut dire la brillance, Carole ?
La brillance, oh, ça veut dire beaucoup de choses. La brillance personnelle, on pourrait commencer par ça, par la brillance de l'individu. C'est briller sa personnalité. C'est briller, par qui on est. Pour moi, ce serait ça, la brillance, c'est-à-dire être rayonné tel qu'on est, en fait.
Voilà. Ouais, joli.
Ouais.
Chouette, c'est une belle définition. Donc, aujourd'hui, en fait, j'aurais aimé que tu nous parles de ton... Tu nous présentes ton parcours un petit peu de femme entrepreneuse.
Alors, c'est un long parcours, hein, mais qui a commencé... en fait, je crois qu'on est entrepreneur dès le début, mais on pourrait dire qu'officiellement... Ça a commencé très officiellement en 2010, mais je pense que j'ai toujours été entrepreneur en fait. C'est plus une philosophie ou un état d'être. C'est plus qu'une philosophie, c'est une philosophie, mais c'est aussi un comportement énergétique, on pourrait dire. C'est quand on est entrepreneur, on s'en rend compte à un moment donné, on ne peut pas faire autrement finalement. C'est un peu ce que je dirais. Donc je me suis rendu compte que j'étais entrepreneur, on va dire, assez tôt, mais j'ai vraiment été entrepreneur à partir de 2010. Donc, en fait, ce parcours, on va le démarrer en 2010, du coup, ce sera plus simple.
Okay.
Mais en 2010, je suis prof, en fait, dans l'éducation nationale depuis une douzaine d'années.
Mm-hmm.
J'en ai marre, pour être très claire. Hein, j'en ai marre parce que je suis plus d'accord avec le système qui, pour moi, essaye de plier les enfants dans tous les sens pour les faire rentrer dans les tiroirs. Donc, je suis plus d'accord avec ce système. J'ai plus du tout envie d'y participer, même si j'adore transmettre et j'adore les enfants. J'étais atterrie dans l'éducation nationale, dans ce métier-là, un peu par hasard, par un concours de circonstances plutôt, on dirait. Et puis, ça m'a quand même beaucoup appris. Mais à ce moment-là, j'en ai marre. Donc, je me dis, il est temps que j'arrête et que je fasse autre chose, que je fasse enfin ce que j'ai envie de faire et monter des projets. Et en fait, parce que j'avais essayé de monter des projets à l'éducation nationale, mais c'était pas possible en fait, pour être rapide. Je n'y arrivais pas, je m'épuisais en fait. Donc,
ouais.
Donc j'ai décidé à ce moment-là de monter un projet, une entreprise. Donc j'ai commencé par faire mes petites choses à moi. Comme je suis plutôt quelqu'un de créatif, j'ai commencé je me souviens, je peignais de la vaisselle et mes copines ont commencé à me dire « Mais Carole, il faudrait que tu la vendes, elle est vraiment sympa cette vaisselle, j'ai dit, ah bon, vous croyez, etc. » Donc j'ai commencé à monter en fait ma première micro avec ça en fait,
okay.
En me disant « Bah tiens, pourquoi pas après tout ?» C'était en plus de mon boulot de prof, j'étais encore prof là. Et puis après, on m'a commandé des toiles, donc j'ai commencé à faire des toiles. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'en suis venue à ce que j'avais vraiment envie de faire depuis longtemps, c'est-à-dire que je suis revenue à mes premières amours. Donc j'ai commencé à faire de la com. Donc je me suis formée au graphisme avec un professionnel, tout simplement. Je ne suis pas allée à l'école, ni rien. Et finalement, j'ai lancé ma première boîte de com ma première boîte, donc la boîte de com en 2010.
Ok.
Exactement. J'avais quand même fait un essai avant avec une boîte d'événementiel pendant 2 ans. Et puis bon, ben voilà, au bout de 2 ans, ça fonctionnait pas comme je voulais, donc j'avais arrêté. Et c'est un an ou deux après que j'ai réitéré. Et donc j'ai ouvert ma boîte de com au départ, qui s'appelait Camatine.
Ok.
Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. En fait, et cette boîte de com, elle a fonctionné pendant quelques années. J'étais en fait, c'était un peu spécial parce que j'étais dans un milieu déjà, j'étais dans ce milieu-là, le milieu des startups à ce moment-là déjà à Toulouse. J'étais revenue à Toulouse après avoir fait un périple ailleurs, un périple de vie, on va dire, dans d'autres villes. Et quand je suis revenue à Toulouse, bon, j'ai reconnecté en fait avec les anciennes de mon école, puisque moi j'ai fait Sciences Po à Toulouse. Et là, en fait, les copines m'ont dit, mais viens avec nous, on va sortir, etc. Et là, j'ai commencé à me connecter en fait au réseau qui était en train de naître à ce moment-là, c'est les années 2000, hein, début des années 2000. Donc j'ai recommencé à sortir, on va dire, et à rencontrer ce milieu du digital qui était en pleine naissance. Donc ça faisait un moment que je traînais, on va dire, dedans, jusqu'à ce qu'en 2010, je décide de vraiment créer ma boîte. Et donc, comme j'étais dans ce milieu, ben, c'est là que j'ai commencé à faire de la com. Donc, dans le milieu de l'innovation, effectivement, par la force des choses, du coup. Donc, j'étais dans le milieu des startups. Et j'étais d'ailleurs installée à l'endroit qui deviendra après l'IoT Valley, qui ne s'appelait pas encore comme ça. La TIC Valley n'existait même pas encore. Mais j'étais au milieu de ces gens-là, de tous ceux qui vont ensuite faire des grosses startups. Mais c'était le tout début, vous savez, le mode garage, en fait, tu sais. Voilà, j'étais dans ce mode garage. Et donc, on avait des petits bureaux, etc. Et je me fais accueillir, en fait, dans un bureau qu'on me prête. Et je le décore. J'y mets ma pâte, je mets de la moquette, pelouse au sol. Je mets des gros poufs de couleurs, une théière automatique, etc. Bref. Et donc, je recevais mes clients là. Et donc, en général, ils se déchaussaient. Et ils s'installaient dans les gros poufs. Et après, ils ne voulaient plus partir. Bon. Donc, ça a commencé comme ça, hein, voilà, dans ce mode-là, qui était vraiment incroyable. Parce qu'il y avait une émulation incroyable. Il y avait des étincelles partout, tout le temps. Il y avait des idées, beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Et beaucoup d'entrepreneuriat. Donc, j'étais vraiment bien. Je me suis vraiment sentie à ma place à ce moment-là. Et comme je rencontrais à la fois des start-upers, mais aussi des grands comptes qui venaient voir les start-up, je rencontrais aussi des administrations, enfin, on va dire des institutions, pouvoirs publics, on va dire, qui étaient aussi par là, puisque tout le monde s'intéressait un peu à ce milieu. Et en fait, j'ai commencé à me rendre compte qu'ils n'arrivaient pas bien à se comprendre. Et donc, j'ai commencé à m'occuper un peu de leur com, aux uns et aux autres, un peu beaucoup même, puisqu'avec mon agent, je m'en occupais vraiment. Et donc, j'avais à la fois des clients start-up, j'avais des clients dans l'administration, j'avais des clients dans les grands comptes. Et donc, j'ai fini par les faire travailler ensemble à un moment donné, puisque je me rendais compte qu'il y avait comme un besoin d'intermédiaire et qui ne se faisait pas. Voilà, donc, c'était une époque incroyable. Hein. Je suis allée à Paris plusieurs fois, mais pour aller m'immerger, on va dire, dans tous ces nouveaux lieux qui étaient en train de naître. Hein, au Silicon Sentier naissait la cantine, la première cantine, donc qui était le premier coworking.
Okay.
Ça n'existait pas en France à l'époque. Premier incubateur digne de ce nom, c'est-à-dire que ça, c'était au Palais Brognard, c'était le camping, ça s'appelait. Donc là, immersion d'une semaine où j'apprends plein de choses, voilà. Et donc tout ça fait que j'ai appris des débuts en fait de tout ça. Et tout ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup nourri. Et ça a servi en fait tout le temps après.
Et ouais. Et après, est née l'idée des Digital Girls, quoi. Du coup, comment c'est arrivé,
oui,
ça?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, dans ce milieu qui était en pleine effervescence, les choses étaient en train de se mettre en place. Comme quand quelque chose est en train de bouillir dans la marmite, à un moment donné, ça va se poser. Et ça va finir par faire une forme. Mais avant que ça fasse une forme, tout ça, c'est en train de se créer. Mmh. Et là, je voyais bien que tout ça, c'est en train de se créer sans les femmes, en fait. Il y avait très peu de femmes. Là, c'était le début de la French Tech, notamment.
Ouais.
Et donc, ce projet arrive sur la table. Et puis là, il n'y a que des hommes autour de la table, de cet écosystème en pleine naissance. Il n'y a pas de femmes. Et donc, moi, je commence à dire, mais où sont les femmes?
Où sont les femmes?
Exactement.
Bravo.
Et là, on me dit, mais on ne sait pas, Carole. Si tu peux nous en trouver, on est preneurs. Parce qu'en fait, effectivement, il n'y en avait pas très peu. Il y en avait quand même, mais très peu dans les start-upeuses, etc. Et donc là, je me suis dit, mais il faut absolument qu'on les rassemble. Comment on fait? Donc, c'est là que j'ai eu cette idée. Mais ça faisait un moment que ça traînait déjà, parce que je voyais bien qu'il n'y en avait pas. Et donc, j'ai eu cette idée de créer ce mouvement. J'ai rencontré une femme, puis deux femmes qui étaient dedans. Une qui était en train de prendre le management du camping toulousain, justement. Une autre qui était codeuse, start-upeuse. Bref, elle était parfaite, on va dire. Et donc, on a décidé de faire ça ensemble. Donc, les Digital Girls sont nées à ce moment-là. Et l'idée des Digital Girls, pardon, c'était de mettre en avant justement les femmes du digital pour qu'on les trouve en fait, qu'on les voit et qu'elles puissent prendre la parole, qu'elles puissent être invitées, qu'elles existent en fait. Parce que ben voilà, on se rendait bien compte que ben qu'elles n'étaient pas dans les réseaux.
Donc, on est en plein dans le plafond de verre là, on est complètement dans le brisage de plafond de verre encore une fois quoi.
Et c'est ça, mais en fait la vérité c'est que les réseaux existaient, sauf qu'elles n'y étaient pas elles. Pourquoi elles n'y étaient pas? Ben, parce que voilà, la vie de femme quoi. Donc, un coup ici, un coup là, les enfants, bref, pas dans les réseaux. Donc, en fait, je me suis pas rendu compte que j'étais en train de faire tout ça, que ça allait faire tout ça, quand on a lancé cette idée. Mais du coup, les journalistes nous ont sauté dessus en disant « Oui, vous êtes féministe, etc. » Parce que c'était les Digital Girls, quand même. Donc, c'était pour les femmes, hein, au départ. Même si c'était ouvert aux hommes, l'idée, ouais, c'était de mettre en avant les, ouais, femmes, quand même, là, pour le coup, parce que c'est ce qui manquait. Et en fait... On s'est toutes téléphonées, je me souviens vite, en disant, mais on a eu des coups de fil. Tout le monde avait eu des coups de fil des journalistes, et en fait, ils essayaient de nous faire dire un truc qui n'était pas ça. Donc,
on s'est
tout de suite appelé, on s'est dit, bon, ben, en fait, on a pas réfléchi à notre discours. Il faut qu'on se mette d'accord. Et donc là, on s'est mis d'accord vraiment sur ce qu'on voulait. Donc, c'est un mouvement ouvert à tous qui fait la promotion de la mixité, mais en mettant les femmes en avant, puisque c'est ça qui est manqué. En fait, voilà, c'était ça l'idée. Et en fait, ça a marché, très bien marché. C'était très spontané, très facile, très fluide, parce qu'en fait, ça intéressait beaucoup. Donc, c'était vraiment une très, très chouette époque et un très chouette moment. Depuis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, les Digital Girls se sont endormies petit à petit, parce que il n'y avait plus vraiment la nécessité, on va dire. Et c'est ce que je m'étais dit d'ailleurs, le jour où on n'a plus vraiment besoin, bah, tant mieux, ça voudra dire
exactement
qu'on a fait des progrès.
Bah ouais.
Après, on n'est pas encore arrivé là où il faudrait, mais l'idée c'était quand même qu'à la fois de mettre en avant les femmes du digital qui existaient déjà, mais c'était aussi de évidemment de donner envie à d'autres de venir et de venir dans ces métiers où elles ne venaient pas. D'abord parce que c'était un secteur économique dans lequel elles avaient leur place et qui était en pleine évolution et en pleine progression, et donc pour qu'elle puisse faire carrière, qu'elle puisse aussi en bénéficier. Il y avait ça d'une part, et d'autre part, plus ça allait, plus je me rendais compte à quel point c'était important qu'elles y soient, parce que ce secteur était tellement important. Bon, en plus, la région Midi-Pyrénées, à l'époque, Midi-Pyrénées, en tout cas notre région, Occitanie maintenant, c'est quand même la deuxième région après Île-de-France, hein, en termes de secteur, hein, secteur informatique. Donc en fait, c'est très, très, un secteur très important, mais surtout, comme c'est un secteur qui est absolument primordial dans la conception de notre avenir, on va dire, si elles n'y sont pas, ben, il n'y a pas leur regard, en fait.
Bien sûr.
Et donc, on sait à quel point c'est important qu'il y ait cet équilibre de yin et de yang, comme on pourrait dire, en tout cas d'énergie féminine, d'énergie masculine, et de regard des deux, puisqu'on n'a pas du tout la même façon d'aborder le digital, tout ce qui va être digital et data, on va dire, pour faire une grosse poche. Et IA, aujourd'hui, on n'a pas le même regard. Les femmes sont allées tout de suite chercher dans l'IA quels étaient les biais, par exemple. Quels sont les biais dans l'IA qui font que... il va y avoir forcément de la discrimination ou qui n'est pas volontaire, mais qui va être codée par inadvertance ou par... voilà.
C'est faux, hein.
Donc, par exemple, elles sont beaucoup allées là au début, en fait. Bon, elles sont encore pas assez nombreuses, mais elles y sont quand même un peu plus qu'avant.
C'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que l'intelligence artificielle est genrée?
Et oui, ben, ça, elle s'est posée à ce moment-là. Parce que au début, effectivement, comme les codeurs sont... à 99% masculin, on pourrait peut-être c'est 95% maintenant, mais quand même, dans les écoles d'ingénieurs, c'est au niveau de l'informatique, franchement, les femmes n'y vont pas, mais ça aussi, on a beaucoup vrai, enfin, on a essayé de vrai là-dessus, d'aller dans les écoles, d'essayer de faire venir les filles, etc., venez coder, etc. En fait, c'est compliqué. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis, hein, des initiatives pour leur donner envie, pour qu'elles viennent, voilà, amener de cette mixité. Mais bon, les filles voulaient pas y aller. Hein. Au début, elles nous disaient, bah non, ça sent la blague grasse et le poil, donc on veut pas venir, etc.
Mais ouais.
Donc en fait, bah, c'est le cliché un peu, mais effectivement, il y avait ça quand même qui faisait que ça les freinait. Et puis globalement, les femmes ne choisissent pas, les filles, on va dire, à ce moment-là, les lycéennes ne choisissent pas suffisamment des carrières scientifiques et les écoles d'ingénieurs. Elles n'y vont pas beaucoup. Donc les mathématiques, ça a encore baissé dernièrement. Elles y vont encore moins. Il y en avait encore en mathématiques, mais maintenant, elles y vont moins. Alors qu'en fait, elles sont complètement faites pour ça, en fait. On le voit dans leurs résultats scolaires. Donc, elles n'y vont pas pour toutes ces raisons. Et pour d'autres raisons qui ne sont pas très faciles à expliquer, qui sont des raisons sociales, mais pas que. En tout cas, en informatique, c'était ça. Il y a tellement de garçons qu'on n'a pas envie d'y aller parce qu'on n'a pas notre place. Sauf que bah, tant qu'il n'y en a pas, il n'y en a toujours pas.
Okay, ouais.
Donc, c'est ce qui fait qu'on peut effectivement se poser la question. En tout cas, elles y ont mis leur nez. Ça, c'est sûr, depuis, quand même.
En tout cas, bravo pour ce parcours-là, en tout cas pour les femmes dans le digital. Et après, du coup, ce que j'aime bien dans ton parcours, c'est que tu mélanges la tech, le big data, tu mélanges et l'holistique, en fait. Et après, tu as la dimension holistique avec le design humain et d'autres formations que t'as suivies et que tu transmets d'ailleurs maintenant au sein de ton programme magnifique qui s'appelle le programme Éclosion au sein des Wonder Girls.
Ouais.
Je vous mettrai le lien là, dans les petits textes qu'il y a sous le podcast sur les plateformes que vous écoutez. Il y aura un petit texte, il y aura un lien pour aller voir ce que fait Carole actuellement et puis son parcours. Et est-ce que tu peux nous parler maintenant des Wonder Girls alors ou du design humain, où on peut en parler en même temps?
Oui,
peut-être.
On peut en parler en même temps.
En même temps, ouais.
Ouais, bien okay. sûr. Donc effectivement, après Digital Girls qui se sont un petit peu mises en sommeil, moi j'ai continué avec mon entreprise, hein, Mindy My Solution, dont t'as parlé au début.
Ah oui, Mindy My Solution, il y a ça aussi.
C'était ça mon entreprise, puisque Digital Girls c'était une association, hein,
oui.
C'était un mouvement. En fait, j'ai eu envie de mêler les deux à un moment donné et d'y amener aussi une autre partie de moi, effectivement, comme tu dis, qui était une partie qui existait moins, évidemment, dans ce que je faisais, par ailleurs dans mon travail, même si dans l'agence Money My Solution, qui était donc anciennement cette agence de com qui s'appelait Kamatine, elle s'est transformée au fil de l'eau et elle est devenue Money My Solution. C'est devenu une espèce d'agence d'innovation, puisque j'ai été au tout début, on pourrait dire un peu pionnière quand même dans les méthodes d'intelligence collective. Donc amener les gens dans les équipes, beaucoup dans les grands comptes, aussi dans les administrations, mais aussi auprès des citoyens, de les faire travailler ensemble, de faire travailler plein de gens ensemble, parfois vraiment beaucoup, parfois des groupes de 20, mais parfois des groupes de beaucoup plus grands, de 200. On a fait travailler 600 citoyens pour la COP21 en 2015, par exemple, sur les solutions et l'adaptation au changement climatique. Bon, en tout cas, tout ça fait que là, il y avait quand même des méthodes pour moi qui étaient des méthodes créatives. On allait chercher le cerveau droit en plus du cerveau gauche et on allait quand même travailler beaucoup en créativité et donc aussi en projection, on va dire, c'est-à-dire en visualisation de l'avenir qu'on souhaite, que ce soit pour trouver des solutions qui n'existent pas, parce que, bon, comme dit Lewis Carroll, hein, en fait, l'imagination, c'est la meilleure arme contre la réalité. Donc, si tu ne te sers pas ton imagination pour imaginer autre chose, tu ne sors pas de ta réalité, en fait. Donc, pour transformer la réalité, si tu veux innover, c'est de la créativité, c'est de l'imagination, obligatoirement. Donc, c'est cette projection dans un avenir qui n'existe pas et qui se fait donc par des méthodes quand même créatives et des méthodes qui ne sont pas des méthodes traditionnelles, on va dire, dans les entreprises, hein, et qui se font à la fois par le cerveau droit, donc la partie créative, mais aussi en groupe, puisque évidemment il s'agissait de projets communs à des équipes ou à des entreprises, où là, pour le coup, pour la COP21, c'était des projets plutôt sociétaux, on va dire. Donc en fait, de toutes ces méthodes-là, il y avait quand même un petit peu de cette partie de moi qui est un peu holistique, comme tu l'appelles. Elle y était déjà, sauf qu'elle ne portait pas ce nom-là. Mais bon, quelque part, c'était quand même ça. C'est-à-dire, c'est la méthode que j'avais posée. C'est on va imaginer ensemble là où on veut aller, là où on veut atterrir. Donc ça, c'est vraiment de la projection. Et puis, on va après se demander comment on y va. Et là, on revient au cerveau gauche, puisque là, on va revenir aux moyens pour y arriver. Donc ça, c'est quelque chose que je fais donc depuis 2010 et que j'ai toujours gardé. C'est comme ça que moi, je fonctionne depuis que je suis enfant, sans m'en rendre compte. Mais il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça, mais on ne s'en rend pas compte. Mmh. À partir du moment où vous visualisez et que vous commencez à vibrer les choses, évidemment, elles vont exister dans l'énergie et elles vont se matérialiser. Après, c'est beaucoup plus facile, en tout cas. Et puis, passer à l'action avec ce principe de « Ok, mais comment j'y vais maintenant, hein, cette vision que j'ai ?» Donc, c'est vraiment mettre les énergies et les actions au service d'un projet. Et là, l'idée de Money My Solution, c'était de le faire en groupe, donc avec des équipes. Donc, c'était de la stratégie, de la vision. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Beaucoup, un projet politique, puisque j'ai fait ça aussi. J'ai fait ça aussi pour une candidate pour la mairie de Toulouse, avec des citoyens, pour un projet de ville, carrément. Hein. Et j'ai aussi conçu et dirigé le laboratoire des usages à Toulouse qui était fait pour ça, pour qu'on imagine la ville de demain pour la ville de Toulouse. Voilà, c'était quelque chose qui était mené par la métropole. Donc tout ça fait que j'ai eu envie de mélanger tout ça pour arriver aux Wonder Girls, donc, qui ressemblent quand même aux Digital Girls, sauf que Digital n'avait plus lieu d'être. Et je me suis dit, mais j'aime quand même bien ce nom qui est porteur de plein de choses. Et donc, je l'ai modifié en me disant, mais en fait, on va y apporter cette touche un peu de magie, hein, de wonder, en fait, qui veut dire merveille, mais donc de brillance, peut-être, comme tu disais au début, de rayonnement. Donc, on lui apporte cette touche de magie. On va essayer de faire en sorte que les femmes, parce que c'est quand même toujours là que c'est, pour moi, il y a toujours quelque chose à faire là. En tout cas, c'est par là que je me sens appelée. C'est d'amener plus de féminin dans le monde pour qu'on puisse rééquilibrer les énergies. Et qu'on puisse faire en sorte qu'il n'y ait pas cet excès de masculin, au sens, comme tout excès, c'est pas bon, en fait. On va dire que ça rend une organisation malade, comme ça peut rendre un organisme malade. Pour moi, en tout cas, je le vois comme ça. Et si on veut que notre monde aille mieux, et que cet avenir qu'on veut imaginer ensemble, ça soit un avenir dans lequel on a envie d'aller, donc un avenir souhaitable pour tout le monde, il faut ramener du féminin. Donc je pense que les femmes ont un énorme rôle à jouer. Et comment elles peuvent jouer ce rôle, en prenant en reprenant leur pouvoir pour prendre le pouvoir. En quelque sorte, prendre le pouvoir, c'est-à-dire être celle qui participe aux décisions, aux vraies grosses décisions. Comment on fait ça? On sait bien comment ça se passe dans les grandes entreprises. Hein. On a beau mettre des quotas, il y a toujours... Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, on en parle suffisamment. C'est quand même encore très compliqué d'obtenir cette parité, on va dire, qui fait qu'il y a ces regards croisés qui font de la richesse et qui font l'équilibre des visions et des actions, on va dire, qui créent le monde, en fait, qui créent notre société. Il y a évidemment la partie politique, ça j'avais déjà mis mon nez, la partie financière, j'avais mis mon nez, et je me suis dit, mais on va revenir à la personne, en fait. Et donc j'ai toujours envie d'aider les femmes à entreprendre, parce que c'est en entreprenant et en créant, en fait, son entreprise qu'on peut créer. Pour moi, hein, les entrepreneurs sont des créateurs, donc c'est eux qui créent le monde aussi, c'est pas juste les décisions politiques qui créent le monde. C'est à notre portée, en fait. On peut créer notre monde. Et si on crée notre monde, on crée le monde, en fait, au fur et à mesure. Donc, l'idée des Wonder Girls, c'était ça au début. Je voulais, en fait, monter un incubateur en ligne pour les femmes. Puisque j'avais déjà fait ça, mais sur des temps courts de 3 jours où je les aidais donc à monter des projets. Là, je me suis dit... Puis j'accompagne, de toute façon, des entrepreneurs dans les incubateurs depuis très longtemps. Donc, l'idée, c'était de faire ça en ligne, pour que ça soit très ouvert. J'avais envie que ce soit très ouvert. Puis le Covid était passé par là. Je me suis dit, oui, bien sûr, il faut que je le fasse en ligne. Comme ça, je pourrais aussi mélanger tous les pays francophones. Puisque j'avais aussi monté des projets en Afrique et j'avais envie de continuer à travailler avec elles, avec ces femmes-là. Et du coup, je me suis dit, tu vas faire ça, sauf que c'est pas parce que tu vas créer un incubateur en ligne pour les femmes, parce qu'il y a déjà plein de choses qui existent, qu'elles vont davantage entreprendre. Puisque l'idée, c'est qu'elles entreprennent plus. Donc, qu'est-ce qui manque pour qu'elles entreprennent et comment tu pourrais contribuer? Et là, je me suis dit, il faut monter un programme de coaching pour elles, spécifiquement pour elles, pour qu'elles déverrouillent, qu'elles dégagent tous leurs freins à l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, je suis revenue encore un cran en arrière en me disant, mais entreprendre, c'est quoi? Et là, je reboucle la boucle du début de notre conversation. C'est, moi, je sais que je suis entrepreneur depuis toujours et je pense que tous les entrepreneurs, si on s'interroge, c'est comme ça. On est fait pour ça, en fait.
C'est ça.
Et pourquoi est-ce qu'on est fait pour ça? Parce qu'on a conscience de notre propre pouvoir, de notre pouvoir créateur, en fait, et on a envie de ça. Donc c'est comment est-ce qu'on fait pour réveiller ça, ou pour alimenter ça chez les femmes, pour qu'elles entreprennent leur vie Même si elles n'ont pas envie d'entreprendre une entreprise, peut-être que ça peut venir de façon très naturelle après, mais déjà qu'elles entreprennent leur vie pour enlever tous ces verrous et qu'à un moment donné, et je pense que c'est naturel, elles entreprennent une entreprise. Donc, c'est comme ça qu'est né le programme Éclosion des Wonder Girls. C'est ce programme de coaching qui permet aux femmes, en fait, d'enlever tous leurs verrous, beaucoup de verrous, pour qu'elles reprennent le pouvoir sur leur propre vie, qu'elles reprennent leur pouvoir créateur, en fait. Donc il y a plusieurs socles. Il y a un grand socle qui est le design humain, qui est en fait un outil de connaissance. C'est un système plus qu'un outil, il y a un système de connaissance de soi qui est extrêmement puissant. On commence à en entendre parler quand même en France, mais ça fait pas très longtemps, et surtout on entend beaucoup moins parler en France qu'ailleurs. Mais c'est un système vraiment puissant de connaissance de soi qui permet à la fois de se connaître. En très peu de temps, c'est vraiment très rapide, c'est très concentré et c'est extrêmement efficace en fait pour bien se connaître. À partir du moment où on se connaît bien déjà, on a plus confiance en soi et on s'accepte davantage et on s'aime davantage. Donc déjà, c'est énorme pour tous ces syndromes de l'imposteur, qu'on manque de confiance en soi, donc on connaît bien chez les femmes. Et puis, et ça permet aussi d'aller pointer tout de suite quels sont nos dons innés vraiment et en fait on se reconnaît dedans, mais on arrive mieux à les accepter aussi quand on nous le dit de l'extérieur. Et puis il y a aussi tous nos conditionnements, et précisément, c'est-à-dire par quoi passe notre mental pour mettre en place ces stratagèmes et nous empêcher d'être dans notre nature profonde et nous faire avoir des comportements qui sont des comportements conditionnés. Et Dieu sait si les femmes sont conditionnées depuis qu'elles sont petites. Mmh. Et c'est bien une des raisons pour lesquelles on ne les trouve pas assez dans l'entrepreneuriat et pas assez dans les endroits où on prend les décisions, on va dire. Donc c'est ça l'idée. Donc ça, c'est le design humain. Et puis, il y a une autre partie qui est... Je les aide à écrire le livre de leur vie rêvée. C'est-à-dire que je remélange avec mes méthodes de créativité. Où en fait, là, elles vont écrire la vie... En la visualisant, bien sûr, j'ai plein de techniques en fait qui leur permettent de visualiser la vie dont elles rêvent et de la manifester. Donc il y a aussi toute une partie holistique qui est un peu des actes psychomagiques, on va dire, avec de l'action qui leur permet à la fois de poser dans l'énergie ce qu'elles ont envie de matérialiser. Et ça, c'est très très puissant. C'est un peu le côté magique, mais c'est pas magique en vrai. C'est très énergétique et c'est de la physique quantique. Donc c'est tout à fait tout à fait rationnel au final. Et puis aussi, évidemment, elles se mettent en action pour réaliser leurs rêves.
Voilà. Waouh, ça fait rêver, hein. Bon, on a hâte, en tout cas, de découvrir encore plus. N'hésitez pas à aller regarder, à chercher sur le net les Wonder Girls. Carole Mourage, notre invitée, la fondatrice, nous a émerveillés de son parcours. Et c'est un bel exemple. Et surtout, elle a tellement de cœur et de générosité que... De par ses compétences et par son cœur, c'est juste magique de la côtoyer. Alors, n'hésitez pas à aller toquer à la porte des Wonder Girls. Pour le design humain, on en a parlé la semaine dernière un tout petit peu. J'en ai parlé dans le podcast la semaine dernière, donc ça tombe bien, ça relie. Et je disais que sur l'internet, vous trouverez plein d'informations. On peut rapidement trouver sur internet comment faire son type rapidement. Mais après, pour aller plus en profondeur, il faut aller quand même voir des spécialistes parce que c'est comme... Doctolib, on ne fait pas des diagnostics tout seul dans son coin. Il y a des gens qui sont formés pour ça. D'ailleurs, Carole l'est très très bien avec son équipe. Et voilà, en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir sur le podcast. Merci pour tout ce que tu nous as offert. Et écoutez, j'espère que l'épisode vous a plu. Parfois il y aura des petites interviews comme ça. Alors on continue, toutes les semaines ce sera des surprises. La semaine prochaine, je pense que je vais parler d'un concept que j'appelle le concept de la boule à facettes. Je vous en dis pas plus, ce sera une surprise. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup et merci Carole.
Merci beaucoup à toi Marielle.
À bientôt, au revoir.